Chapitre 3. Quoique ses moyens le lui permissent, Paul Cormier ne s'était pas encore mis dans ses meubles comme son ami Jean de Mirande qui s'était payé une installation superbe. Il ne vivait pas non plus dans un hôtel garni comme un simple étudiant pourvu d'une maigre pension. Il avait loué dans une honnête maison un joli appartement meublé composé de 4 pièces au premier sur le devant, et n'eût été l'écriteau jaune pendu à la porte de la rue, les personnes qui venaient le voir pouvaient croire qu'il était là chez lui. Une femme comme il faut pouvait y entrer sans se compromettre. En fait de domestique, il se contentait d'une femme de ménage, évitant ainsi la dépense obligatoire d'une tenue de maison, afin de garder plus d'argent de poche, le seul qu'il apprécia. Il avait un certain mérite à se gouverner de la sorte, car Madame Cormier, la mère, était restée usufruitière de toute la fortune, et son fils, qui aurait pu exiger sa part de l'héritage, ne l'avait jamais réclamé. Depuis qu'il avait gagné 8 000 francs au vicomte de Cervon, il s'était déjà demandé s'il ne les emploierait pas à se créer un intérieur confortable, où il pourrait, sans rougir de la mesquinerie de son ameublement, recevoir un jour ou l'autre la marquise de Ganges. Mais depuis la mort tragique du mari, il pensait beaucoup moins à la jolie somme qui gonflait son portefeuille qu'à un autre portefeuille qu'il s'était chargé de remettre à la veuve du marquis. Celui-là lui pesait 100 livres sur la poitrine, et quand il le retira de sa poche en se déshabillant, c'est à peine s'il osa y toucher. Il fut pourtant violemment tenté de l'ouvrir. Monsieur de Ganges, en lui recommandant de le porter à sa femme, ne lui avait pas défendu d'en examiner le contenu, et il y trouverait peut-être d'autres secrets que celui de la personnalité du défunt. Il ne savait presque rien de la marquise, et il ne tenait peut-être qu'à lui de tout savoir. Mais il lui répugnait de fouiller dans les papiers d'un mort, et après avoir un peu trop hésité, il sut résister à la tentation. Il le serra avec ses billets de banque dans l'armoire à glace qui lui servait de coffre-fort, et il se mit au lit où il dormit d'un sommeil très agité, jusqu'à l'heure où sa femme de chambre le réveilla pour lui apporter son chocolat, c'est-à-dire à midi précis. Paul se hâta de se lever et d'expédier ce frugal déjeuner. Il lui tardait de courir à l'avenue Montaigne, et il avait encore à faire une toilette plus soignée que de coutume avant de se présenter chez la marquise. Le noir était indiqué puisqu'il avait à remplir le pénible rôle du page de la chanson de Marlborough. La nouvelle que j'apporte fera vos yeux pleurer. Encore fallait-il que les vêtements de deuil qu'il allait mettre fussent neufs et coupés par un bon tailleur. Il était content du sien qu'il n'habillait que des messieurs élégants, et il choisit une tenue appropriée à la circonstance. S'il eût osé, il aurait mis une crêpe à son chapeau. Et il n'eut pas de peine à prendre la figure que doit avoir un homme chargé d'annoncer une catastrophe, car il n'avait pas le cœur à la joie. Il commençait à se préoccuper fortement des conséquences du drame nocturne auquel il avait pris une trop large part. Il se demandait ce qu'il était advenu du cadavre abandonné sur le talus des fortifications et si on n'avait pas trouvé sur le mort des preuves de son identité. Tout n'était peut-être pas dans son portefeuille. Et dans ce cas, la police arriverait bien vite à découvrir qu'il existait à Paris une marquise de Ganges ayant des relations dans le beau monde et Pignon-sur-Rue, ou plutôt sur Avenue, ce qui est encore mieux. Donc, Paul Cormier devait se hâter s'il voulait avoir tout le bénéfice de la mission qu'il avait acceptée. Mission délicate s'il en fut, puisqu'il était la cause involontaire de la mort du marquis. Il est vrai que la marquise partageait ce tort avec lui, puisqu'elle s'était tacitement prêtée à la confusion de personnes qui avait amené la malencontreuse présentation au bal de la closerie des Lilas. Et Paul espérait que cette complicité passive lui vaudrait quelque indulgence de la part de la veuve. Elle l'avait laissé se mettre dans son jeu. Après la scène qu'il allait avoir avec elle, en s'acquittant du message que le mort lui avait confié, il ne pouvait pas manquer d'y entrer plus avant, et il comptait bien. Non pas, certes, qu'il songeât à se prévaloir de la situation pour lui imposer son intimité, mais elle aurait forcément besoin de lui, et elle ne pourrait pas moins faire que de le revoir. Il avait renvoyé sa femme de ménage et il allait sortir quand il avisa sur sa table de nuit une lettre qu'elle y avait posée en entrant, comme elle avait coutume de le faire chaque matin lorsqu'elle apportait le courrier. Peu s'en fallut qu'il ne l'y laissât sans l'ouvrir. Il n'avait ni affaire ni créancier, et les femmes qui lui écrivaient de temps à autre lui étaient maintenant complètement indifférentes. Il la décacheta cependant pour acquit de conscience, et il ne fut pas peu surpris de ce qu'il y lut. On lui écrivait ceci. J'ai vu tout ce qui s'est passé ce matin au petit jour sur un bastion du boulevard Jourdan. Vous avez tué un homme et vous étiez deux contre un. C'est bel et bien un assassinat et vous savez où ça mène. Je n'ai qu'un mot à dire pour vous faire arrêter. Mais je suis bon enfant et je ne demande qu'à m'entendre avec vous. Le silence est d'or à ce qu'on dit. J'estime que le mien vaut au moins 10 000 francs. Si vous êtes disposé à me les donner, vous me trouverez de midi à 2 heures dans le jardin des Thermes de Cluny, au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. Si vous n'y venez pas, vous coucherez ce soir au dépôt de la préfecture. Ce sera vous qui l'aurez voulu. Cette aimable épître n'était pas signée, mais elle était très correctement rédigée, sans la moindre faute d'orthographe ni de français, et parfaitement adressée à M. Paul Cormier. Elle n'était pas signée, on ne signe pas ces choses-là, mais il y avait un post-scriptum ainsi conçu. Je m'adresse à vous de préférence, parce que c'est vous que j'ai sous la main, mais je saurai retrouver votre complice, et il ne perdra rien pour avoir attendu. C'était clair et net, il s'agissait d'un chantage. Le maître chanteur se trompait peut-être volontairement quand il disait que Paul avait tué un homme, puisque Paul n'avait été qu'un des témoins du duel. Il s'adressait à celui-là parce qu'il ne connaissait pas encore l'adresse de l'autre, mais la menace d'une dénonciation n'en était pas moins redoutable. Évidemment, ce drôle s'était renseigné chez le portier du numéro 9 de la rue Gay-Lussac sur son locataire, et il n'avait qu'à signaler M. Cormier au commissaire de police pour qu'on l'envoyât chercher à domicile par 2 agents. C'était ce que Paul redoutait par-dessus tout, car s'il se flattait de fournir à ce commissaire des explications satisfaisantes, il tenait absolument à pouvoir disposer de sa journée, d'abord pour aller voir la marquise de Ganges, et ensuite pour aller consulter le vieil ami de sa mère, l'avocat Bardin. Quant à acheter le silence du gredin qui le menaçait de le dénoncer, Paul n'y songea pas un seul instant. Non qu'il eût volontiers donné de l'argent pour que ce drôle le laissât en repos, mais c'eût été se mettre à sa merci, car il n'aurait pas manqué de recommencer. C'est le système de tous les maîtres chanteurs. Plus l'homme qu'ils exploitent les paie, plus croissent leurs exigences. Ils ne le lâchent qu'après l'avoir ruiné, et lorsqu'il en est là, ils le dénoncent quand même. Paul savait cela, et d'ailleurs au fond il ne demandait qu'à être appelé à s'expliquer devant un magistrat sur ce duel malheureux. Il faudrait bien revenir là tôt ou tard, mais il préférait que ce ne fût pas immédiatement. Mais comment ce misérable était-il si bien informé? Paul ne s'en doutait pas, et c'était d'autant plus incompréhensible pour lui que, à en juger par le style et l'orthographe de la lettre, il n'avait pas affaire à un rôdeur de barrière. Mais Paul n'avait pas le loisir de chercher le mot de cette énigme, et sa résolution fut bientôt prise. Le chanteur ne l'attendait pas dans la rue, devant sa maison, puisqu'il annonçait que de midi à 2 heures, il se tiendrait dans un jardin du musée de Cluny. Paul n'avait qu'à laisser s'y morfondre et à prendre un fiacre pour se faire conduire avenue Montaigne. Après son entrevue avec Madame de Ganges, il comptait aller chez Bardin, puis chez Mirande, que très probablement il trouvait encore au lit, et quand il serait entendu avec lui, dans l'or, il serait le temps dévisé. Il sortit donc, et en sortant, il eut soin de donner un coup d'œil à droite et à gauche. Il ne vit personne. La rue Gay-Lussac n'est pas très fréquentée, et dans le voisinage du numéro 9, il n'y avait aucun de ces établissements où on vend à boire et à manger, et où on peut s'installer pour espionner à travers les vitres de la devanture. Cormier aurait bien pu interroger son portier pour savoir qui avait apporté la lettre et si quelqu'un était venu demander des renseignements. Mais c'eût été laissé voir qu'il craignait d'être surveillé et il préféra s'abstenir. Il passa donc devant la loge sans s'y arrêter et tournant à gauche, il déboucha sur le boulevard Saint-Germain-Michel, tout près de la station où il avait pris la veille la voiture qu'il avait menée avec Madame de Ganges au rond-point des Champs-Élysées. Avant d'y arriver, il en vit une arrêtée au coin de la rue Gay-Lussac, mais elle devait être occupée, car les stores étaient baissés et il lui fallut pousser jusqu'à la station de la rue de Médicis. Cette fois, aucune femme ne monta dans le fiacre qu'il choisit. Ces aventures-là n'arrivent pas tous les jours. Paul, bien entendu, n'avait pas oublié de se munir du portefeuille à lui confié par le pauvre marquis, et il n'avait pas non plus laissé le sien dans son armoire à glace, où ses billets de banque n'auraient pas été en sûreté. Le voyage ne lui parut pas long, car il l'employa à se préparer à paraître devant la marquise, et plus le moment solennel approchait, moins il se sentait rassuré sur le résultat de la démarche qu'il allait tenter, démarche scabreuse s'il en fut. D'abord, Madame de Ganges consentirait-elle à le recevoir? Il commençait à en douter. Sous quel prétexte et sous quel nom se présenterait-il? Elle savait qu'il s'appelait Paul Cormier, il le lui avait dit. Peut-être était-ce une raison pour qu'elle lui fermât sa porte si elle reconnaissait ce nom sur la carte qu'il remettrait au domestique chargé de répondre aux visiteurs. Mieux valait sans doute se faire annoncer sous un nom inconnu d'elle, en ajoutant qu'il avait absolument besoin de l'entretenir d'affaires graves et urgentes. Paul payait assez de mine pour ne pas avoir à craindre d'être pris pour un mendiant, ni même pour un commis voyageur qui vient offrir à domicile des vins de propriétaire. Une fois qu'il serait en présence de la marquise, le reste irait tout seul. Elle n'aurait garde de le renvoyer, car après ce qui s'était passé chez la baronne d'Ozulé, elle devait souhaiter autant que lui une explication en tête-à-tête. La seule difficulté était donc d'arriver jusqu'à elle. Après réflexion, il résolut de s'inspirer des circonstances, et il descendit de son fiacre un peu avant le numéro 22, à seule fin de se donner le temps d'examiner l'extérieur de la place avant d'essayer d'y pénétrer par surprise. En s'approchant, il vit un grand et bel hôtel dont la façade à 2 étages était imposante. On devinait tout de suite qu'il n'avait pas été construit pour abriter une de ces horizontales enrichies qui peuplent l'avenue de Villiers et les rues adjacentes. L'hôtel de la marquise était un hôtel sérieux comme on n'en bâtit guère pour ces demoiselles. Il avait même l'air un peu triste, avec ses hautes fenêtres closes et sa majestueuse porte cochère dont les deux battants étaient fermés. On n'entrait pas là comme chez la baronne de l'avenue d'Antin, qui laissait libre l'accès Lucien les jours où elle recevait ses nombreux amis. Chez madame de Gange, il fallait montrer patte blanche et son salon n'était pas ouvert à tout venant. Paul, un instant intimidé par l'aspect de ce logis seigneurial, doutait de plus en plus d'y être admis. Il se décida pourtant à sonner et le cordon fut tiré immédiatement. Il poussa le battant mobile et se trouva dans un large vestibule aboutissant à un jardin qui semblait s'étendre très loin. Un valet en livrée de couleur sombre vint à la rencontre du visiteur et lui demanda son nom, ce qui semblait indiquer que madame de Gange était chez elle. Paul, pris de court, allait donner sa carte lorsqu'il aperçut à l'entrée du jardin un homme vêtu de noir qu'il reconnut aussitôt pour l'avoir déjà vu la veille au Luxembourg sur la terrasse. Cet homme, c'était celui qui avait eu maille à partir avec Jean de Mirande à propos de la chaise occupée si cavalièrement par cet audacieux étudiant et que Mirande avait traité du haut en bas. La rencontre était fâcheuse. Ce personnage qui gardait si bien la marquise hors de chez elle devait se tenir là pour la protéger à domicile contre les importuns et contre les indiscrets. Et s'il allait me reconnaître pour m'avoir vu hier avec Jean, se disait Paul de moins en moins rassuré. Il oubliait qu'il s'était tenu à distance pendant l'altercation et que ce chevalier de la marquise n'avait pas pu le remarquer. Il eut bientôt la preuve qu'il avait tort de s'alarmer, car ce grave personnage s'approcha et lui dit très poliment que madame de Gange, un peu souffrante, ne recevait personne. Paul ne se tint pas pour battu, et parlant d'abondance, il dit qu'il n'avait pas l'honneur d'être connu de madame la marquise, mais qu'il était chargé de lui faire une communication importante. L'homme l'interrompit pour lui demander brusquement « De la part de qui ?» Paul ne pouvait pas répondre « De la mienne » après avoir dit que madame de Gange ne le connaissait pas. On l'aurait évidemment mis à la porte. Il eut une idée qui aurait pu lui venir plus tôt et qu'il crut bonne car il n'hésita pas une seconde à dire « De la part de monsieur le marquis de Gange ». En parlant ainsi, Paul Cormier ne mentait pas puisque le malheureux marquis l'avait expressément chargé d'aller remettre son portefeuille à sa femme et c'était bien le seul moyen qui lui resta d'arriver jusqu'à madame de Gange. Mais il avait oublié de se demander comment le chevalier noir allait prendre cette déclaration qui devait l'étonner beaucoup, pour peu qu'il fût au courant des affaires de ménage de la noble dame dont il semblait s'être constitué le garde du corps. « C'est impossible !» dit brutalement ce personnage rébarbatif. « Monsieur le marquis n'est pas à Paris !» C'était bel et bien un démenti. En toute autre occasion, Paul l'aurait vertement relevé, mais il dut filer doux, sous peine de manquer son but, en se faisant expulser. Et il se contenta de répondre « Tout ce que je puis vous dire, c'est que je l'ai vu et qu'il m'a confié une mission que je tiens à remplir consciencieusement. Or, je ne puis m'en acquitter que si madame me fait l'honneur de me recevoir, car j'ai promis à monsieur de ne remettre qu'à elle seule un objet qu'il m'a chargé de lui apporter. » Ce fut dit d'un ton ferme qui parut faire impression sur le fidèle gardien de la marquise. Peut-être crut-il que ce messager inattendu arrivé d'un pays étranger où il avait rencontré M. de Gange. Paul, en affirmant qu'il l'avait vu, s'était bien gardé de dire où. Et il se pouvait que Madame de Ganges eût intérêt à recevoir le message. Je veux bien lui répéter ce que vous venez de me déclarer et prendre ses ordres, grommela le serviteur récalcitrant. Elle est au fond du jardin, je vais lui demander si elle veut vous recevoir. Si elle y consent, je viendrai vous chercher. Attendez-moi ici. Paul n'avait qu'à obéir, sans élever d'objection, trop heureux d'avoir décidé ce Cerbère à consulter sa maîtresse. Ainsi fit-il. Bien persuadé d'ailleurs que dans la situation d'esprit où elle devait être depuis la veille, elle ne refuserait pas de voir un monsieur qui lui apportait les nouvelles de son mari. Il resta à la place où le colloque venait d'avoir lieu et il attendit, sous l'œil du valet en livrée, qu'il observait de loin. L'homme noir revint au bout de quelques minutes et il lui dit « Allez, elle est seule maintenant. »« Je l'espère bien qu'elle est seule, » pensa Paul, qui tenait absolument au tête-à-tête et qui ne savait pas que la marquise venait de renvoyer une de ses amies pour le recevoir. Il prit l'allée que l'homme lui indiqua. Au premier tournant, il croisa l'amie et il la salua en passant. Cette amie était une très jeune femme, modestement habillée, dont l'éclatante beauté l'éblouit. Une brune au teint clair, avec des yeux qui n'en finissaient pas, et un air de tristesse qui ne faisait que l'embellir encore. Sans doute une amie malheureuse, une amie d'enfance, à laquelle Madame de Ganges s'intéressait. Paul avait autre chose en tête que de chercher à deviner ce qui elle était. Il cherchait les yeux la marquise, et il l'aperçut assise au pied d'un acacia sur un banc rustique. Elle aussi l'aperçut et se leva vivement pour venir à sa rencontre. « Vous ici, monsieur ? » s'écria-t-elle. « Et vous osez vous y présenter sous prétexte de me remettre un message de mon mari ? Mais est-ce ainsi que vous tenez votre parole ? Vous m'aviez promis de ne pas chercher à me connaître. Vous aviez déjà manqué à votre promesse en me suivant jusque chez Madame d'Ozulé. Et Dieu sait dans quel embarras vous m'avez mise. Vous m'avez donc encore une fois épiée, puisque vous êtes parvenu à savoir où je demeurais. Non, madame, non, je vous jure que non, s'écria Paul. Alors comment avez-vous appris mon adresse ? Vous n'avez pas eu, je suppose, l'audace de la demander, après mon départ, aux personnes qui avaient entendu le domestique de la baronne vous annoncer sous le nom que je porte. Bon, je m'en serais bien gardé. Quelqu'un a dit devant moi que votre hôtel était situé avenue Montaigne. Soit, je veux bien vous croire. Et alors vous n'avez rien eu de plus pressé que de vous présenter ici. Mais qu'espériez-vous donc ? Vous êtes-vous imaginé que je continuerais à me prêter à une confusion de personnes que je n'ai pas eu la présence d'esprit d'empêcher en déclarant tout haut que je ne vous connaissais pas ? Je ne l'espérais pas, mais je le désirais de tout mon cœur. Mais vous saviez bien que c'était impossible. Ni mon ami, ni les personnes qui se trouvaient chez elle hier ne connaissent mon mari. Mes gens ne le connaissent pas non plus. Mais il y a ici quelqu'un qui le connaît. Oui, oh, votre intendant, n'est-ce pas ? Cet homme qui hier vous gardait au Luxembourg et que je viens de retrouver. Non, monsieur Coussergue n'est pas mon intendant. C'est un ancien officier qui fut l'ami de mon père et qui est resté le mien. Il connaît monsieur de Ganges, mais il ne sait pas qu'on m'a pris pour lui. Donc, pour le présent, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à craindre que l'erreur soit découverte. Elle le saura forcément quand mon mari reviendra. C'était le cas où jamais le répondre, il ne reviendra jamais. Mais Paul ne le fit pas. Avant d'en venir là, il voulait voir un peu plus clair dans les sentiments intimes de la marquise, et il lui dit Oserais-je vous demander ce que vous ferez quand reparaîtra Monsieur de Ganges? Oh, je n'en sais rien encore, murmura Madame de Ganges. Je crois bien que je lui dirai la vérité. Le mensonge me répugne. Et du reste, je n'ai à me reprocher qu'une légèreté que mon mari excusera quand je lui aurai dit le motif qui m'a poussé à la commettre. C'est son affaire, répliqua peu poliment Paul. Piqué d'entendre cette marquise parler de ses relations avec lui comme d'une aventure sans conséquence. Mais vos amis et vos amis, la baronne de Zulé, le vicomte de Servon et les autres, comment leur expliquerez-vous que vous n'avez pas protesté contre l'erreur de ce valet qui m'a annoncé devant 10 personnes sous le nom de Monsieur de Ganges? Oh, je n'aurai rien à expliquer, car aussitôt que mon mari sera de retour, je quitterai avec lui Paris et la France. Mais vous y reviendrez. Oh, je ne crois pas. Quoi? Vous expatriez pour toujours? Vous y aurez contribué en me plaçant dans une situation insoutenable. Bon, j'ai eu tort, je l'avoue, mais vous, madame, n'avez-vous donc rien à vous reprocher? Je ne vous connaissais pas quand je vous ai vu au Luxembourg. Et vous me rendrez cette justice que je ne me suis pas permis de vous aborder, c'est vous qui... Brisons-la, monsieur, interrompit sèchement la marquise. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Si vous saviez ce qui m'a déterminé à agir ainsi, vous excuseriez mon imprudence. Et ce n'est pas à vous de me le rapprocher. J'en supporterai les conséquences, et je vous prie de ne plus vous occuper de moi. Ainsi, vous me défendez de vous revoir. Vous revoir? Mais je le voudrais que je ne le pourrais pas, vous devez le comprendre. Et si, comme je le crois, vous êtes un galant homme, vous ne chercherez pas à prolonger une fiction qui finirait par me compromettre gravement, et que la très prochaine arrivée de Monsieur de Ganges va percer à jour. Je vous pardonne d'avoir cru que je n'y mettrais pas fin. Vous pensiez sans doute que j'étais libre. Vous savez maintenant que je ne le suis pas, puisque je suis marié. Vous vous trompez, madame, répliqua Paul Cormier. Vous êtes veuve. Paul, emporté par un élan de passion, avait parlé trop vite, et il se repentait d'avoir lancé cette grosse nouvelle qu'il comptait réserver pour le moment où il aurait suffisamment préparé Madame de Ganges à la recevoir. Il n'avait pas pris le temps de se préparer à l'expliquer et à tirer parti de l'effet qu'elle allait produire. Il venait de mettre, comme on dit, les pieds dans le plat. L'effet, d'ailleurs, ne fut pas celui qu'il prévoyait, car la marquise répondit dédaigneusement « Vous vous permettez, monsieur, une plaisanterie très déplacée. Souffrez que je vous le dise et que j'arrête là cet entretien. À Dieu ne plaise que je ne plaisante après un pareil événement, s'écria Paul. Je vous répète que vous êtes veuve, madame. Je vous le jure sur mon honneur. Mais vous ne prenez pas garde que vous êtes en contradiction avec vous-même, dit froidement Madame de Ganges. Vous vous êtes introduit chez moi en prétextant que vous aviez à me remettre un message de mon mari et vous venez me dire maintenant qu'il est mort. L'une de vos deux déclarations est fausse. Non, elles sont vraies toutes les deux. Ah, c'est trop fort! Et vous me permettrez, monsieur, de ne pas en entendre davantage. Je vous supplie de m'écouter jusqu'au bout. Après, vous ne douterez plus. Bon, ce fut dit avec tant de fermeté que Madame de Ganges resta et attendit la suite. J'ai vu votre mari cette nuit, reprit Paul. C'est impossible, mon mari n'est pas à Paris. Ben, il y est arrivé hier, je l'ai rencontré malheureusement. Mais comment avez-vous pu le reconnaître? Vous ne l'aviez jamais vu. C'est lui qui m'a abordé. Il a entendu Monsieur le Vicomte de Servan me présenter à un de ses amis en m'appelant Monsieur le Marquis de Ganges. Alors il est intervenu. Il m'a demandé des explications que je n'avais garde de lui fournir. Mais où s'est passée cette scène? Demanda la marquise, déjà mise en éveil par cet exposé inattendu. Dans un bal public, répondit Paul après avoir un peu hésité. On vous a trompé, monsieur. Quelqu'un aura trouvé drôle de se faire passer pour le marquis de Ganges, qu'il avait peut-être vu autrefois et dont vous usurpiez le nom et le titre. Mais j'aurais pu croire cela si l'affaire n'avait pas eu de suite. Quelle suite? Il m'en coûte de vous le dire, mais il faut que vous sachiez tout. J'ai juré et je dois tenir ma parole. Une querelle s'est engagée entre mon mari et Monsieur de Servan. Non, madame, Monsieur de Servan n'était plus là. Un de mes amis est survenu au moment où Monsieur de Ganges me menaçait de me souffleter, et mon ami, qui est très violent, a pris les devants et l'a frappé au visage. Oh, ce n'est pas vrai. Monsieur de Ganges n'est pas un lâche. Oh non, certes. Il ne l'a que trop prouvé. Mais il a été surpris par cet acte de brutalité. Il ne lui restait qu'à demander raison à l'agresseur, et c'est ce qu'il a fait. Et il en résultera un duel? Demanda anxieusement la marquise. Le duel a eu lieu, madame, répondit Paul en baissant les yeux. Quand? On ne se bat pas la nuit. Ils ont attendu que le jour commençât à poindre. Dieu m'est témoin que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher la rencontre ou pour la retarder. Tous mes efforts ont été inutiles et achevés. On s'est battu à l'épée et Monsieur de Ganges, frappé en pleine poitrine, est mort en brave. Mort? Oh non, ce n'est pas possible. J'y étais, madame. Je l'ai vu tomber. Ah, oh, je comprends, s'écria la marquise. C'est vous qui l'avez tué. Et vous osez vous présenter devant moi couvert du sang de mon mari. Non, madame, je n'étais pas son adversaire. J'ai été un de ses témoins. Et c'est lui-même qui m'a choisi. Il ne nous connaissait ni les uns ni les autres. Il a eu confiance en ma loyauté et je l'ai assisté de mon mieux. La marquise, pâle et tremblante, se taisait parce qu'elle n'avait plus la force de parler. Si vous en doutez, reprit Paul, je puis vous prouver que je ne dis que l'exacte vérité. Je suis venu chez vous parce que Monsieur de Ganges m'y a envoyé. Comment aurais-je su votre adresse s'il ne me l'avait pas donnée? Je n'ai pas pu la demander à Monsieur de Servon qui me prenait et qui me prendra encore pour votre mari. Mort? Il est mort? Murmura la marquise en cachant son visage dans ses mains gantées. Monsieur de Ganges a fait plus que de m'envoyer à vous. Il m'a raconté sa vie. Que dites-vous? Demanda madame de Ganges, stupéfaite. Toujours la vérité, madame. La querelle a commencé dans un bal près du carrefour de l'observatoire et s'est vidée aux fortifications. J'ai fait ce long trajet à côté de monsieur de Ganges et en causant avec lui. C'est ainsi que j'ai reçu de lui des confidences que je n'avais pas provoquées. Mais comment a-t-il pu vous choisir pour les entendre, vous qui vous étiez emparé de son nom? Je lui ai dit qu'on m'avait fait la sotte plaisanterie de me le donner et que je n'y étais pour rien. En vérité, je ne manquais pas. Il m'a cru et s'il n'y avait pas eu le soufflet, l'affaire se serait probablement arrangée et j'aurais eu quelques mérites à pousser comme je l'ai fait à un accommodement, puisque sans ce duel fatal, vous ne seriez pas. Mais que vous a-t-il dit ? Interrompit la marquise. Oh, son récit n'a été qu'une longue confession de ses torts envers vous. Il m'a dit qu'il s'était ruiné plusieurs fois et qu'il avait abusé de votre bonté sans jamais la lasser. Il m'a dit que depuis un an, il n'a pas cessé de vous tromper en vous écrivant qu'il était en train de refaire sa fortune dans de grandes entreprises financières. C'était faux. Il était en dernier lieu à Monaco où il jouait et où, après avoir gagné une somme énorme, il a perdu jusqu'à son dernier louis. Il arrivait à Paris sans argent, et c'est la honte de vous avouer ce qu'il avait fait qui l'a empêché de se présenter hier à votre hôtel. Ah, c'est le coup de grâce, murmura Madame de Ganges. Je dois ajouter, reprit Paul, qu'il se repentait de vous avoir offensé et qu'il m'a chargé de vous demander de lui pardonner le mal qu'il vous a fait. C'était là une mission qu'il ne me plaisait pas, vous le croirez sans peine, mais je ne pouvais pas refuser de l'accepter et je m'en acquitte. Abîmé dans sa douleur ou tout au moins dans son émotion, la marquise semblait avoir été changée en statue. Pâle, immobile, le regard fixe, elle ne trouvait pas une parole à adresser à Paul Cormier qui attendait. « Mais qui donc l'a tué ?» demanda-t-elle lentement comme si elle sortait d'un rêve. « Un homme que vous connaissez, madame, répondit Paul. Il était avec moi hier au Luxembourg quand je vous ai vu pour la première fois et il a osé vous parler. » « Jean de Mirande !» s'écria la marquise. « Lui, toujours lui, mais c'est donc écrit qu'il troublerait encore une fois ma vie. » « Mais que voulez-vous dire, madame ?» demanda vivement Paul Cormier. « Que vous a donc fait Mirande avant de... »« Oh, à moi, rien !» murmura la marquise. « Mais il a fait le malheur d'une personne à laquelle je m'intéresse. » Et vous venez m'apprendre qu'il a tué mon mari ? Qu'il ne le connaissait pas, même de nom. Je l'ai interrogé après le duel, et il m'a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler de M. de Ganges. Cette assurance ne parut pas déplaire à la marquise, et Paul reprit vivement. « Vous le voyez, madame, c'est la fatalité qui a tout fait. » Et dans ce malheur, vous pouvez du moins vous dire que vous ne serez pas compromise, car personne ne sait que l'homme qui a succombé dans ce duel était votre mari. Mais on le saura, on trouvera sur lui des papiers, des cartes de visite, que sais-je. Rien, madame. Monsieur de Ganges, avant le duel, m'a remis son portefeuille. Le voici, dit Paul en le tirant de sa poche, pour le présenter à la marquise. Il porte une couronne et des armes gravées sur le cuir. Les reconnaissez-vous ?
Oui, ce sont les siennes, balbutia Madame de Ganges.
Ai-je besoin de vous jurer que je ne l'ai pas ouvert ?
Non, je vous crois. Mais que va-t-il arriver, mon Dieu ? La justice poursuit les duellistes. Quand le duel a causé la mort de l'un des combattants, vous serez interrogé, vous et votre ami. Que direz-vous ? La vérité, n'est-ce pas ? On vous demandera pourquoi vous avez pris ce nom qui ne vous appartenait pas, et vous ne pourrez pas cacher ce qui s'est passé hier chez mon ami, Madame d'Ozulé. Oh, je suis perdu !
Si on m'interroge, je ne parlerai pas de vous. Mirande non plus. Par une excellente raison, c'est qu'il ignore que vous existez. Les trois autres témoins sont trois étudiants qui n'étaient pas présents au moment où M. de Ganges m'a grossièrement reproché de lui avoir volé son nom.
Ils savent que ces messieurs se sont battus à propos d'un soufflet, mais ils ne savent pas pourquoi ce soufflet a été donné. Ce n'est pas moi qui leur apprendrai. Et d'ailleurs, il n'est pas certain qu'on nous interrogera. Personne ne nous a vus sur le terrain. Paul oubliait peut-être volontairement la lettre du maître chanteur qui menaçait de le dénoncer. Il ne pensait qu'à rassurer la marquise et à tirer parti, pour entrer dans son intimité, de la bizarre situation que le plus étrange des hasards venait de leur créer. Il sentit très bien que le moment eût été mal choisi pour lui parler encore de son amour, comme il n'avait pas craint de le faire avant de lui annoncer qu'elle était veuve, mais il constatait déjà que, si la nouvelle de la mort tragique de M. de Ganges avait bouleversé la marquise, elle ne l'avait pas affligée outre mesure, car elle n'avait pas versé de larmes. Et il lui savait gré de ne pas feindre une douleur que ne pouvait guère lui causer la lamentable fin d'un homme qui s'était presque vanté avant de mourir d'avoir été le plus détestable des maris. Il espérait qu'une fois remise de l'émotion bien naturelle qu'elle venait d'éprouver, cette victime d'une union mal assortie comprendrait qu'elle aurait tort de faire un éclat, et il se préparait à lui proposer, en temps et lieu, le modus vivendi que lui avait suggéré sa cervelle d'amoureux. Il attendait toujours qu'elle prît ce portefeuille qui, à vrai dire, lui brûlait les doigts. On a beau ne pas être sentimental à l'excès, on ne garde pas volontiers sur soi les reliques d'un homme qu'on a vu tomber et frapper à mort dans un duel dont on a été la cause première. Et de son côté, la marquise répugnait évidemment à toucher ce lait de son indigne mari. Paul Cormier se décida enfin à le placer sur le banc où elle était assise quand il avait paru dans le jardin. Il pensait bien qu'elle ne l'y laisserait pas, et il tenait à s'en débarrasser le plus tôt possible. « Vous ne m'accuserez plus de mentir, » dit-il doucement. « Et maintenant que j'ai rempli la pénible mission qui m'a été imposée, je vous supplie, madame, de me faire connaître votre volonté. À tout ce que vous me demanderez, j'obéirai, quoi qu'il m'en puisse coûter. Dans la situation où les événements nous ont placés, c'est à vous de donner des ordres. Et je vous demande en grâce de ne penser qu'à vous en prenant une décision. Peu importe ce qu'il m'arrivera, pour que vous n'ayez pas à souffrir des conséquences de ce duel. Souffrir, répéta tristement la marquise. Voilà des années que je souffre. Il ne peut rien m'arriver de pis que de vivre comme j'ai vécu depuis que je me suis marié. Si vous saviez. Je sais. Croyez-vous donc que je ne devine pas qu'on vous a sacrifié un homme que vous n'aimiez pas et qui a fait de vous une martyre? S'il ne me l'a pas dit, il m'en a dit assez pour que je ne le plaigne pas. C'est Dieu qui l'a puni et c'est vous que je plains. Vous pour qui je mourrais avec joie, si ma mort pouvait vous épargner un chagrin. Vous que... » La marquise arrêta d'un geste la déclaration brûlante que Paul avait sur les lèvres. « Pas un mot de plus, » lui dit-elle d'une voix ferme. « Je vous crois, mais je ne dois pas vous écouter. Je subirai mon sort sans murmurer, et je compte que vous n'aurez pas moins de courage que moi. » Est-ce à dire que vous persistez à me défendre de vous revoir? Et comme Madame de Ganges se taisait, « Mais c'est impossible !» s'écria Paul. « Mais comment feriez-vous? Mais que diriez-vous à vos amis, à ce moment où vous vivez où j'ai été présenté sous le nom de votre mari? Espérez-vous leur persuader que je suis retourné à l'étranger? Il s'apercevrait bien vite que je n'ai pas quitté Paris. Je me suis déjà trouvé face à face avec Monsieur Le Servon dans un lieu où je ne devais pas m'attendre à le rencontrer. C'est moi qui partirai. Je m'éloignerai de la France, je vous l'ai déjà dit. Mais j'y resterai, moi. Que dirai-je à ceux qui me parleront de vous? Faudra-t-il que j'échafaude des mensonges pour tâcher de leur expliquer ce chassé-croisé du marquis de la marquise de Ganges? Ils ne me croiraient pas. Ils sauraient bientôt la vérité. On dirait partout que j'ai été votre amant et que nous avons à nous deux inventé cette supercherie. Ils ne vous pardonneraient pas de vous être moqué d'eux. Mais pourquoi ne leur diriez-vous pas tout simplement la vérité? Que vous m'avez suivi? Que vous êtes entré chez Madame de Zulé en même temps que moi qui ne vous avais pas vu? Et que l'erreur d'un valet de pied a fait tout le mal? Mais ils me croiraient encore moins! Mais rien ne vous oblige à les voir. Vous n'avez qu'à reprendre la vie que vous avez toujours menée. Pour eux, le quartier que vous habitez est aussi loin que la Chine. Vous y avez rencontré Monsieur de Servon par un de ces hasards qui n'arrivent pas deux fois. Oui, j'avais bien compris. Vous ne voulez plus me connaître. Je vous gêne, murmura Paul Cormier. Ah, je n'ai pas dit cela, répliqua vivement la marquise. Vrai, vous ne me chassez pas. Merci, oh, merci. Alors il n'y a qu'un moyen seul, c'est de rester comme nous sommes. Ah, je ne comprends pas. Mais pourquoi ne continuerai-je pas à passer pour votre mari? Demanda Paul, emporté par son ardeur amoureuse, au point de ne pas s'apercevoir de l'énormité de la proposition qu'il osait faire à la marquise. D'abord parce que c'est impossible. À la rigueur, mes amis pourraient s'y laisser prendre, mais les vôtres, mais votre mère, car vous avez encore votre mère, vous me l'avez dit, comment leur persuaderez-vous que vous n'êtes plus vous-même? Cesserez-vous de les voir? Non, mais je les verrai moins souvent. Je ne dîne chez ma mère qu'une fois par semaine, le dimanche. Elle ne vient presque jamais chez moi, et elle ne me demande pas de lui rendre compte de ce que je fais. Encore votre mère, reprit la marquise, serait-elle bien étonnée et probablement très affligée, si elle venait à apprendre que son fils va dans le monde sous un faux nom et porte un titre qui ne lui appartient pas. J'admets qu'elle n'en saura rien. Mais monsieur de Mirande, votre ami intime, comment pourrait-il ignorer que vous vivez en partie double, étudiant sur la rive gauche et marquis sur la rive droite? Paris est si grand, murmura Paul à bout d'argument. Oui, Paris est immense, mais tout y arrive. Vous en avez eu la preuve hier, puisque vous avez trouvé sur votre chemin Monsieur de Servon. Et si vos camarades venait à découvrir que vous vous faites passer pour le marquis de Ganges, de quoi ne vous accuserait-il pas? Non, convenez donc, monsieur, que votre projet est fou, si tant est que vous l'ayez conçu sérieusement. Paul baissa la tête et ne trouva rien à répondre. Ce n'est pas tout, reprit Madame de Ganges. Alors même qu'il serait praticable, je ne me prêterai pas à une imposture. Je ne trouve pas d'autre mot pour qualifier le plan de conduite que vous me proposez d'adopter. Vous préférez me désespérer? Non, monsieur. Seulement je veux rester maîtresse de mes actions. Je ne sais ce que vous pensez de moi, mais je vous prie de croire que j'ai toujours été irréprochable. Mon mari lui-même, mon mari, qui m'a fait tant de peine, me rendrait cette justice s'il vivait encore. Il me l'a dit avant de mourir. Vous devez donc comprendre que je ne puis ni ne dois rester avec vous dans les termes où nous a mis la méprise d'un domestique. Je suis décidé à dire la vérité à mon amie Madame de Zulé. Elle a assisté à la scène et je lui expliquerai qu'un manque de présence d'esprit m'a empêché de rectifier immédiatement l'erreur. Elle rira de l'aventure et elle se chargera de la présenter sous son véritable jour à ses invités d'hier. Dieu sait ce qu'ils penseront de moi, murmura l'étudiant. Qu'importe, tout ce que vous ferez sera si bien fait, madame. Je serais désolé que vous eussiez à souffrir de ma franchise, mais je ne puis agir autrement. Je ferai d'ailleurs en sorte de prendre sur moi la responsabilité de ce désastre malentendu. Personne n'aura rien à vous reprocher. Il aura, du reste, duré si peu de temps qu'il ne saurait avoir de bien graves conséquences. S'il en a, je les supporterai quelles qu'elles soient. Mais pourvu que vous ne me défendiez pas de vous revoir. Plus tard, peut-être, mais vous sentez comme moi que pendant un temps, nos relations doivent cesser. Si j'étais sûr qu'elles ne seront qu'interrompues, je ne puis rien vous promettre. La catastrophe que vous venez de m'annoncer va bouleverser ma vie, et je ne sais pas encore quelle partie je prendrai. Je n'ai même pas la certitude que je suis veuve. Oh, si vous ne l'étiez pas, je ne vous aurais pas parlé comme je viens de le faire. Mais M. de Gorges est tombé sous mes yeux, et je vous ai apporté la preuve qu'il est mort, dit Paul Cormier, en montrant du doigt le portefeuille auquel la marquise n'avait pas encore osé toucher. Il était resté sur le banc, ce portefeuille armorié, et elle ne pouvait pas douter qu'il eût appartenu à son mari. « Ouvrez-le, madame, » reprit Paul. « Vous y trouverez certainement des papiers qui ne vous laisseront pas de doute. » La marquise ne semblait pas pressée de suivre le conseil que lui donnait l'amoureux qui aspirait à remplacer son mari. Peut-être s'y serait-elle décidée, mais son garde du corps se montra tout à coup. Au lieu de prendre l'objet, elle se plaça de façon à l'empêcher de le voir, et elle l'interrogea des yeux. L'homme noir comprit la signification du regard qu'elle lui lança, car il répondit comme si elle lui eût adressé la parole. C'est le valet de chambre, le monsieur de Servon, qui apporte une lettre pour monsieur de Ganges. J'ai eu beau lui dire que monsieur de Ganges n'est pas encore arrivé, il prétend que son maître l'a vu hier. La marquise changea de visage et Paul Cormier comprit. Le vicomte envoyait les 8 000 francs qu'il avait perdus sur parole à monsieur de Ganges, qui les lui avait gagnés. Il paraît que la lettre contient de l'argent, reprit le chevalier noir, et que c'est très pressé. La situation se corsait encore. Le domestique de M. de Servon attendait une réponse, et ce n'était pas à Paul Cormier de la lui donner. La marquise ne pouvait pas faire moins que de s'en charger. Mais dites-lui que M. de Ganges n'est pas là, et que je ne reçois pas les lettres adressées à mon mari, répondit-elle, après un silence. Bien, je vais le congédier, dit l'impassible personnage, et il tourna les talons en pivotant tout d'une pièce, militairement, comme un soldat qui vient de faire son rapport à son supérieur. Paul le laissa s'éloigner avant de dire à demi-voix, « C'est à moi que cette lettre était destinée. »« À vous ?» s'écria la marquise. « Oui, madame, depuis la partie de baccarat, chez madame Nozulé, monsieur de Servon est mon débiteur. »« Et c'est chez moi ? qu'il envoie la somme qu'il vous doit. Naturellement, puisqu'il croit la devoir à monsieur de Ganges. La marquise tressaillit. C'était le premier effet de l'erreur du valet de pied de madame d'Ozulé, et elle pouvait maintenant mesurer ce que cette fatale méprise allait lui coûter. Oh, il reviendra la porter lui-même, cette somme, continua avec intention Paul Cormier, qui ne désespérait pas encore d'amener la marquise à accepter son projet de rester dans le statu quo. Oh, et vous en verrez bien d'autres. C'est la conséquence forcée de ce qui s'est passé chez votre ami. Vous avez raison, monsieur, dit-elle. La situation où nous nous trouvons tous les deux est intolérable. Je n'ai que deux parties à prendre, vous dire la vérité, ou quitter Paris et n'y jamais revenir. J'ai besoin de réfléchir avant de me décider, et je désire être seul. C'était un congé en bonne forme, et la marquise le signifia d'un ton si ferme que son amoureux comprit qu'il n'avait qu'à se retirer. « Je vous obéis, madame, » dit-il tristement. Il se flattait que pour adoucir cette injonction, elle allait lui tendre la main, mais elle ne la lui offrit pas plus que la veille, au moment où il l'avait quittée, tout près du rond-point des Champs-Élysées. Elle la retira même, comme si elle eût craint qu'il ne la prît sans sa permission. Décidément, cette marquise n'aimait pas les contacts, même du bout des doigts. Après ce refus, presque décourageant, Paul Cormier n'avait plus qu'à s'en aller, sans ajouter un mot à ce qu'il avait dit. Ainsi fit-il, très mortifié et très mécontent du résultat de sa première visite à la marquise de Ganges. En traversant la cour qui précédait le jardin, il y retrouva l'homme habillé de noir, cet étrange personnage qui se tenait à l'écart pour apparaître de temps en temps comme la statue du commandeur. Paul savait maintenant que ce garde du corps n'était pas un simple domestique, mais il n'eut pas la moindre envie de le saluer en passant, et il crut voir que ce chevalier de la dame de l'avenue Montaigne le regardait d'un air soupçonneux. Il se demandait sans doute ce que ce jeune homme était venu faire chez madame de Ganges, et c'était bien la preuve qu'elle n'avait pas jugé à propos de lui parler de ses aventures à la sortie du Luxembourg et chez la baronne d'Ozulé. Peu importait du reste à Paul Cormier, mais il ne fut pas plus tôt hors de l'hôtel qu'il lui arriva, comme la veille, en descendant de voiture aux Champs-Élysées, d'envisager la situation sous un tout autre aspect. La veille, après le voyage en fiacre, il s'était repenti de s'être laissé trop facilement éconduire, et maintenant il apercevait dans le langage et dans l'attitude de la marquise des côtés qui le choquaient. Elle n'a pas sourcillé quand je lui ai annoncé que son mari avait été tué cette nuit, se disait-il en s'acheminant vers le véhicule numéroté qu'il attendait à 20 pas de la porte de l'hôtel. Je sais bien que ce mari était un chenapan et que sa mort la débarrasse de lui. J'ai trouvé tout naturel qu'elle ne jouât pas la comédie en faisant semblant de se désoler, mais à défaut de larmes, elle aurait pu montrer de l'émotion, ne fût-ce que par convenance. C'est tout au plus si elle a été troublée un instant. Elle s'est mise tout de suite à examiner avec moi les conséquences de cette mort, en ce qui la touche personnellement. Car elle ne s'est pas beaucoup inquiétée de savoir comment j'allais me tirer de ce mauvais pas. Et pourtant, si on poursuit les acteurs du duel, c'est Mirand et moi qui paierons les pots cassés. Cette marquise ne s'est pas seulement informée de ce qu'était devenu le corps du malheureux que nous avons laissé étendu sur l'herbe d'un bastion du boulevard Jourdan. Je commence à croire qu'elle n'a pas de cœur.